Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Debout et accueillante dans sa librairie. Dans le second volet du Profil perdu que Christine Goémé consacrait à Adrienne Monnier, c'était ainsi que Pierre Dumayet disait se souvenir d'elle quand lui-même fréquentait la maison des Amis des Livres. Lecture pour tous, cela aurait d'ailleurs pu être le slogan du numéro 7 de la rue de l'Odéon, tant il y eut quelque chose de militant dans la volonté qui animait Adrienne Monnier de faire découvrir aux lecteurs les meilleurs auteurs de leur époque. En deux numéros, ce Profil perdu proposait un portrait d'Adrienne Monnier en faisant revivre ce lieu mythique que fut sa librairie et, c'est important, bibliothèque de près, qui aura vu passer durant l'entre-deux-guerres tous ceux qui comptaient ou allaient compter. Dans le deuxième volet, on pouvait notamment entendre Sylvia Beach raconter dans quelles circonstances, avec le soutien de son amie Adrienne Monnier, elle fit publier Ulysse en France en 1922, alors que l'édition du livre de Joyce était impossible aux États-Unis comme en Angleterre. Et par la voix d'Adrienne Monnier, on apprenait ce que furent, quelques années plus tard, les péripéties de la redoutable traduction d'Ulysse, afin d'aboutir à une version française qu'elle-même contribua à faire publier. Profil perdu, Adrienne Monnier, deuxième et dernière partie, diffusée la première fois le 8 décembre 1988 sur France Culture.
Sa voix, je me souviens très bien de sa voix, c'est une voix claire et beaucoup plus jeune qu'elle, il me semble. Qui correspondait bien d'ailleurs avec sa silhouette, c'était une silhouette à la fois d'un autre temps et d'un autre lieu, enfin, une robe qui descendait jusqu'aux pieds.
Profil perdu, Adrienne Monnier.
Elle était en noir ou pas ?
Plutôt noir, comme on dit dans les sondages. Il me semble qu'elle était plutôt gris la robe, plutôt bure un peu, plutôt monastique, mais monastique gentille quand même, monastique souriante. Mais vous savez, elle était habillée un peu comme une lampe dont l'abat-jour descendrait jusqu'aux pieds, un peu comme ça. Dans mon souvenir, Adrienne Monnier est quelqu'un que je vois debout. Debout, accueillante, voilà.
Adrienne Monnier appartient à ce groupe restreint de libraires, on pense à Sylvia Beach et à Camille Bloch par exemple, qui firent de leur librairie des lieux de défense et d'illustration du métier d'écrivain. Par elle, la Maison des Amis des Livres devint un centre générateur de lumière. Elle fit connaître les écrivains que son goût parfois tranchant privilégiait. Elle combattit pour que les livres non reconnus puissent être lus. Conférences, revues, séances de lecture, éditions, bibliothèques de prêt, tout était bon pour rencontrer le public rare et dispersé que l'écrivain espère, mais qui sans elle serait resté un rêve abstrait. Voilà pourquoi elle est une magicienne de la littérature. Non seulement elle créa un public de lecteurs, mais surtout, elle s'attacha à l'initier au texte et à former son goût. Elle aimait physiquement les livres, la circulation des styles et des idées. Pendant près de 40 ans, sa petite librairie de la rive gauche devint l'un des plus prestigieux centres internationaux de la littérature. Pierre Dumayet.
Les souvenirs que j'ai d'elle sont pas particulièrement datés, sont plutôt des images. Par exemple, je me souviens d'elle dans sa librairie, mais je ne me souviens de personne d'autre. C'est-à-dire que je serais incapable de dire là, j'ai rencontré un tel avec elle. Non, je ne sais pas. C'était quelqu'un qui faisait un peu comme si celui qui entrait avait des choses à lui dire, alors que c'était évidemment l'inverse le plus normal. Mais elle avait tendance, peut-être par une sorte de courtoisie et d'humour et d'ironie, à penser qu'un gamin de 21 ans, ce que j'étais à l'époque, ou 22 ans, qu'un gamin avait plus de choses à dire que elle, ce qui était évidemment une charmante façon de se tenir. Elle était contente quand elle voyait quelqu'un qui était un lecteur, et je crois que c'était un peu son paradis, ça. Je veux dire, je ne sais pas comment elle aurait pu se tenir vis-à-vis de quelqu'un qui lui aurait dit, moi, les livres, ça m'embête, par exemple. Là, je pense qu'elle se serait mise en colère.
Elle avait une passion irréductible de la littérature.
François Chapon.
Qui faisait qu'elle éliminait ce qu'elle trouvait mauvais, qu'elle n'hésitait pas à le dire, et que par contre, elle soutenait mordicus les valeurs qu'elle avait adoptées.
C'était l'ennemi du nivellement.
Voilà. Tout à fait. Et en même temps, à une époque qui était encore une époque où la société hiérarchisée de Paris avait beaucoup d'importance, où ce que j'appellerais la mondanité était encore régnante, eh bien, Adrienne Monnier, qui savait, comme ces milieux très souvent essayaient de récupérer la littérature, ne serait-ce que pour donner de l'éclat à leurs fêtes, à leurs salons, à leur rayonnement, elle a toujours été très prudente vis-à-vis de ce faux éclat des mondains. Et si elle avait besoin d'eux, parce qu'il lui fallait quand même des clients, n'est-ce pas ? Et si on lit le registre des gens qui étaient abonnés à sa bibliothèque de près ou qui venaient chez elle, n'est-ce pas ? Oui. On trouve évidemment des duchesses et des grands personnages. J'ai retrouvé là l'autre jour la liste par exemple, des gens qui assistaient à une des séances sur Léon Paul Fabre, qui est un véritable bottin mondain.
Oui. Mais vous avez cette liste, ça nous intéresse.
Je vous dis tout de suite que, bien, elle les invitait. Elle savait en tirer le parti qu'il fallait, mais en même temps, elle n'a jamais été dupe de ses fausses apparences. Elle a toujours eu le souci de la vraie littérature, n'est-ce pas ?
Oui.
Et bon, eh bien, voilà une séance, par exemple, qui était organisée pour Léon Paul Fabre. Alors,
à quelle date ?
On peut situer ça, bien sûr, dans les années 20.
Alors, c'est très joli, et il y a l'en-tête.
Il y a l'en-tête gravée sur bois, n'est-ce pas, qui était non seulement sur le papier à l'aide d'Adrienne Monnier, mais sur ses éditions.
Il y a donc d'un côté une petite...
Une vignette qui représente la vitrine, la fameuse vitrine grise du 7 de la rue de l'Odéon, qui était une vitrine pas du tout fracassante, très modeste, je dirais presque une vitrine provinciale. N'oublions pas que nous sommes sur la rive gauche, qui est très important aussi au point de vue littéraire à l'époque. C'est là où se font toutes les choses d'avant-garde, sauf le milieu de Montmartre étant mis à part. Alors, sous la vignette, vous avez l'adresse, 7 rue de l'Odéon, Paris 6e,
et le téléphone,
Fleurus 2505. Voilà. Eh bien, vous avez une liste là. Alors, je relève des noms qui étaient des noms de la haute mondanité. La princesse de Bassiano, c'est je dirais presque naturel, puisque vous savez qu'elle était la mécène de commerce, qui était d'ailleurs en distribution chez Adrienne Monnier. Et la direction de commerce était assumée par des amis de la maison, comme Paul Valéry ou Léon Paul Fabre. Jacques Porel, qui était le fils de Réjeanne, qui était un homme très, très brillant, d'ailleurs. Jacques-Émile Blanche, le peintre mondain par excellence, très méchante langue, dont Degas disait cruellement « c'est une vipère sans cul ». La marquise de Jaucourt, Bonite Castlane, la baronne Édouard de Rothschild, la comtesse de Main, Madame Paul Boncourt, Cécile Sorel, Madame Dubost, vous voyez, c'est tout à fait un bottin mondain, Robert de Rothschild, la duchesse de Rohan, la princesse Lucien Murat, Léla Béraudière, et puis enfin quelques autres, voilà. Bon, je ne vous dis pas qu'il n'y avait que ça chez Adrienne Monnier, loin de là.
Bien sûr,
c'est intéressant de voir une liste comme celle-là, parce qu'on voit quelle hypothèque, si je puis dire, faisait peser à ce moment-là sur la renommée, sur l'audience des littérateurs, ce monde parisien qui était encore très, très puissant, très actif et qui faisait beaucoup pour la gloire d'un personnage. Vous savez tout ce que lui a dû, par exemple, Paul Valéry. Alors, Adrienne Monnier en tenait compte, mais en même temps, elle ne s'est jamais laissée influencer par ses faux prestiges qu'elle a toujours tenus à distance. Et il faut alors souligner maintenant l'importance qu'ont eu ces séances de la Maison des Amis des Livres, comme s'appelait son magasin, n'est-ce pas ?
Oui.
Elle a eu l'idée de donner des réunions tantôt dans la boutique, tantôt dans son appartement, quelquefois, mais très rarement, dans une salle ou un théâtre, quand la nécessité l'y obligeait, des séances en faveur d'un écrivain. Ces séances ont beaucoup fait pour le renom de certains. Si vous permettez, je vais vous lire quelques-uns des programmes parce que c'est absolument éblouissant quand on revoit ça. Je ne peux pas vous les lire tous parce qu'il y a eu de très nombreuses séances. Je vous rappelle que c'est là, par exemple, que Éric Satie, avec Suzanne Balgry, est venu lire son Socrate, n'est-ce pas ? Francis James est venu lire des sonnets. Mais alors, je vois, par exemple, une séance consacrée le 12 avril 1919 à Paul Valéry. Eh bien, la causerie était 19, hein, vous voyez, c'est une date où Valéry n'avait pas du tout la gloire qu'il a eue depuis.
Oui.
Et la causerie était de Léon Polfargue. Et les lectures, tenez-vous bien, étaient celle du poème Aurore par Adrienne Meunier, était par André Breton, des fragments de la Jeune Parc et le Rameur par Léon Polfargue, le Cantique des colonnes par Adrienne Meunier elle-même. C'est André Gide qui a lu L'Appétit et l'Insinuant, et c'est Léon Polfargue qui a lu La Soirée avec Monsieur Test. Alors, vous voyez quel bouquet, là, de gloire, combien durable elle savait réunir. La même année, en 19, elle organise au théâtre du Gymnase une matinée Paul Claudel, pour laquelle le poète a écrit une introduction qu'elle publiera dans les cahiers des Amis des Livres. Parce que, parallèlement à cette activité orale, elle publiait des textes dans ses cahiers. Comme elle n'avait pas de grands moyens, je crois que la série a dû s'arrêter au sixième cahier. Mais enfin, quels textes elle a publiés là ? Des textes de Claudel, de Larbeau, enfin de grands écrivains du moment. Et alors, sur cette séance, Claudel, elle a une très jolie réflexion que je vais vous lire, qu'elle avait publiée dans un petit opuscule qui s'appelle « Les séances de la Maison des Amis des Livres », qui est une sorte d'invitation aux gens à participer, mais vous allez voir comment. Paul Claudel, écrit-elle notamment, comme dans le conte d'Aladin, fit transporter la Maison des Amis des Livres dans un théâtre du boulevard. Mais si le nombre de ses admirateurs exigeait ce cadre plus vaste, ses amis regrettèrent leur petite maison de la rue de l'Odéon, où le poète eût été au milieu d'eux. C'est en effet le charme de ces séances que d'être intime et émouvante et d'établir une communion parfaite entre celui qui parle et ceux qui écoutent. Et c'est pour cela que nous garderons ce qui constitue déjà nos traditions. Nous essaierons cependant d'éviter les écrasements de nos séances de l'année dernière, ce qui n'est peut-être pas une tradition indispensable. Le succès nous avait pris au dépourvu. Nous prévenons donc que nous ne disposons que de 100 places assises. Puis alors après, elle donnait la façon de se procurer ces places et d'arriver à l'heure pour ne pas gêner le conférencier ni le lecteur. Alors, je me suis arrêté en chemin. Je vais vous citer quelques autres de ces conférences ou de ces auditions musicales, parce que, par exemple, c'est là qu'a eu lieu la première audition d'Alissa de Darius Milhaud, d'après la porte étroite d'André Gide. C'est Jeanne Battery qui interprétait. Il y a eu aussi une autre séance, alors consacrée à Léon Polfargue, avec des lectures de Gide, de Miomandre, de Porel, d'Adrienne Meunier et de la grande actrice Réjeanne. Est-ce que vous permettez, là, que je vous lise l'introduction à cette séance qu'elle a rédigée ? Je l'ai là sous les yeux.
Avec plaisir,
et
oui.
Tout le monde a vanté le tour de sa conversation, qui était très simple, très juste dans les termes, et qui, par cette justesse, cette précision, exerçait toujours un charme sur l'interlocuteur. Et je crois que ce petit texte vous donne tout à fait une idée de ce qui était à la fois sa gentillesse et sa prise directe sur le public. « Or, dit-elle, mes chers amis, afin de louer Léon Polfargue, je n'aurai pas besoin de comparaison. Je n'aurai pas besoin non plus d'ajouter à son nom les qualificatifs qu'il est d'usage d'employer pour un poète. N'êtes-vous pas le public le plus averti de France et sans aucun doute du monde entier? C'est à vous de donner des définitions et non pas d'en écouter. Vous voyez, c'est tout à fait charmant comme
élégance. Hein,
oui. Il me suffira donc de vous dire les titres des poèmes que vous allez entendre et les noms de ceux qui les liront. Alors là, elle énumère le programme. Elle rappelle que André Gide, entre autres, va lire des poèmes de Fargue. Et alors, en terminant, un coup de chapeau à la grande actrice de l'époque, qui était Réjeanne, qui avait accepté de venir lire « Éternez, mémoriez, Patrice ». Et alors, elle termine en disant « Nous la remercions de tout notre cœur d'avoir quitté un moment les grandes salles dorées de la rive droite, vous voyez toujours cette opposition entre le monde du boulevard et le monde de la rive gauche, pour venir dans notre petite maison grise prêter son art à un poète que nous aimons. » Qu'il y a eu plusieurs séances et avec des causeries de Larbeau, dont une sur Samuel Butler. Une séance mémorable consacrée à un poète auquel on revient, qui est un poète qui n'est connu là aussi que des Happy Few, c'est Henri Levet. Et les lectures des poèmes de Levet étaient introduites par un dialogue savoureux qu'elle a publié d'ailleurs, si je ne me trompe, entre Léon-Paul Fargue et Valérie Larbeau. D'autres séances à Valérie, d'autres à Claudel, et puis alors une très importante qui est la séance consacrée à James Joyce, avec la conférence de Larbeau, la lecture de fragments d'Ulysse, traduit par Benoît Méchain notamment, revue et agrémentée par Léon-Paul Fargue. Vous savez que ces deux petits papiers que je vous montre, que ne peuvent pas voir vos éditeurs, mais ils en entendent le froissement, eh bien, ces deux petits papiers sont passés récemment dans une vente publique et ils ont dépassé très largement le million de francs. Je parle toujours en ancien francs parce que ça fait plus d'effet. J'arrive à une autre séance très importante, c'est celle du 31 mai 1922, causerie de Paul Valéry sur les idées d'Edgar Poe. Et vous savez que c'est la première fois que Valéry a pris la parole en public. Il s'est rattrapé par la suite, puisque vous savez qu'il est devenu un conférencier infatigable, bien que souvent très ennuyé, mais jamais ennuyeux. Et alors, c'est la première fois qu'il a parlé en public, c'est chez Adrien Mathy. Il y avait plusieurs séances consacrées à son cher Jules Romain, à Georges Duhamel, des lectures de Jean Schlimberger, enfin, et bien d'autres. Mais je ne vous cite pas là parce qu'on n'a pas de traces imprimées, si vous voulez, de ces réunions, les lectures d'œuvres qui avaient lieu alors dans son appartement, des lectures personnelles, privées. Par exemple, André Breton, il y a lu Les Champs magnétiques, Paul Éluard, Les animaux et leurs hommes, n'est-ce pas? Il y avait quelquefois des lectures improvisées, les impressions d'Afrique de Raymond Roussel par André Gide.
Revenons rue de l'Odéon à la séance de 1921 consacrée à James Joyce. Son enjeu est décisif pour l'histoire de la littérature du XXe siècle. Elle en changera le cours en introduisant l'œuvre de Joyce en France. Interdit en Angleterre, Ulysse sera traduit et édité grâce à ses deux amies, Sylvia Beach et Adrienne Monnier. Écoutons ce qu'elles en disent au cours d'un entretien datant de 1948.
J'étais très émue de voir ce grand écrivain, notre plus grand de langue anglaise, et il était très amusé par le nom de ma librairie, le titre « Shakespeare and Company ». Il a dit qu'il viendrait tout de suite me voir, et il est venu le lendemain, en effet. Alors il est venu très souvent après cela, et il me racontait ce qui arrivait à la publication de son livre en Amérique. Ulysse était en train de paraître dans The Little Review. Mais 4 fois, la police de New York l'avait supprimé, et la 4e fois, c'était supprimé définitivement. Il est venu un jour me dire, ça y est, Miss Anderson et Miss Heap ont été arrêtées, c'était les éditrices, et traînées devant le tribunal. Leurs empreintes digitales ont été faites et la revue a été supprimée, et mon livre aussi, naturellement. Alors, ce livre étant défendu en Angleterre, il ne restait qu'à la faire paraître en France. C'était obligatoire, notre chef-d'œuvre. Et naturellement, c'est en France le seul pays où on pouvait exprimer les choses de l'esprit avec liberté. Alors, je n'avais pas un sou. Je n'avais aucune expérience dans l'édition, mais heureusement, Adrienne Monnier était là, et elle avait beaucoup d'expérience, et tous les jours, je l'ai consultée, et Joyce l'a appelée « The Business Advisor of Shakespeare and Company », conseiller d'affaires de Shakespeare and Company. J'ai parlé avec Maurice Darentière, et j'ai décidé de faire imprimer 1000 exemplaires. Joyce ne m'encourageait pas beaucoup, parce qu'il disait « Jamais vous ne vendrez un exemplaire de ce livre si ennuyeux. »
Vous pensez bien que ma première idée a été de faire traduire Ulysse. Dès que j'ai su par Sylvia qu'une telle œuvre existait et que j'ai vu quel enthousiasme était le sien, auquel enthousiasme avait succédé celui de Valérie Larbaud. Je me disais en effet « Voilà un très grand livre et ce serait parfait de le faire traduire. » Mais d'après tout ce que mes amis me disaient, car moi je savais très peu l'anglais, je voyais que la tâche était immense et peut-être insurmontable. Toujours est-il que notre première tentative de traduction remonte à décembre 1921. Nous avions décidé alors de faire une séance consacrée à James Joyce. Larbaud devait faire une conférence et il était indispensable de lire quelques fragments. Larbaud lui-même s'était attaqué à un passage très difficile, un passage d'Ulysse qui se passe dans un bar où il y a de charmantes filles, de barmaids, et tout le style est très musical, assez surréaliste même. Et Larbaud n'avait pas hésité à entreprendre cette traduction. Il avait d'ailleurs fait lire par un jeune acteur américain de passage à Paris le passage anglais correspondant pour donner aux gens une idée de cette musicalité si particulière du style de Joyce. Et nous avions pensé aussi, parce qu'enfin on annonçait la chose comme une œuvre très hardie, qu'il fallait donner un passage du fameux monologue de Pénélope qui clôt le livre. Et là, c'est un jeune ami à nous, qui s'appelait Jacques-Benoît Méchain, qui était un étudiant, qui savait admirablement l'anglais et admirablement l'allemand, ce qu'il a hélas très bien pour montrer après, qui s'était chargé du dégrossissement, on peut dire, de ce passage. Ce qu'il avait fait n'était pas très bon, il y avait mis surtout de la bonne volonté, mais nous avons trouvé ça assez insuffisant et surtout il y avait des choses qui manquaient vraiment de hardiesse. Et Joyce, c'est Joyce lui-même qui a eu cette idée, nous a suggéré qu'on devait demander à Fargue, qui avait toujours une conversation si libre, si amusante et même souvent si rablaisienne, il a dit « Oh mais Joyce, Fargue serait épatant s'il voulait s'occuper de ça ». Et en effet, Fargue a tout à fait accepté, avec beaucoup de bonne humeur, et en demandant naturellement de travailler avec Joyce, puisqu'il ne savait pas l'anglais. Et après je ne sais combien de lapins posés à Joyce, ils sont arrivés à un résultat, et c'est ce passage qu'on a lu. Et puis, un certain temps a passé, et en 1924, au moment de la fondation de la Belle Revue Commerce, qui paraissait sous la direction de Paul Valéry, de Léon-Paul Fargue et de Valérie Larbaud, nous eûmes cette idée qu'il fallait, dès le numéro 1, donner encore des fragments, mais cette fois beaucoup plus importants, d'Ulysse. Alors là, j'ai franchement embauché un jeune poète dont j'avais fait connaissance un an auparavant à peu près, qui s'appelait Auguste Morel. Auguste Morel m'avait communiqué des traductions de poèmes de John Donne qu'il avait traduit avec beaucoup de soin en français du XVIe siècle. Il me semblait tout à fait, lui-même aussi avait fait des poèmes très curieux et avec des recherches d'expression vraiment intéressantes. Je pensais qu'il pourrait se tirer de la chose. Je lui en parlais et il me dit « Oh oui, certainement, mais ça me semble bien difficile, ça va demander très longtemps, j'espère que vous n'êtes pas pressé. » Alors j'ai dit « Non, nous attendrons le temps qu'il faudra, vous prendrez tout le temps qu'il faut. » Il dit « Et puis ailleurs, par ailleurs, j'aimerais bien que Larbaud puisse revoir la traduction, je ne suis pas très sûre de moi. » Et nous lui avons dit « Mais oui, en effet, Larbaud a accepté de revoir la traduction. » Alors, dans le numéro 1 de commerce, il y avait les 15 premières pages de sa traduction, à laquelle il s'était mis à peu près donc au printemps de 24. Et puis, Larbaud avait ajouté deux fragments des derniers chapitres qu'il avait traduits lui-même. Il avait pris en particulier tout à fait la fin du monologue de Pénélope, et cette fois, il l'avait retraduite complètement. Et alors, cette fois-là, il avait même apporté certaines hardiesses nouvelles. Naturellement, comme vous savez, il n'y a pas de ponctuation dans ce chapitre. Lui, donc, avait supprimé la ponctuation, mais il avait supprimé aussi tous les accents sur les mots et les apostrophes, ce qui faisait un effet étonnant. Par exemple, il écrivait « j'imagine », « l'Angélus », « l'Europe ». C'était très surprenant de voir ces mots sans apostrophe.
Jacques Aubert.
On peut se demander d'ailleurs si Joyce serait resté à Paris, où il n'était en principe que de passage, s'il n'avait pas rencontré un accueil comme celui d'Adrienne Monnier, et peut-être aurait-il poursuivi son chemin jusqu'à Londres, comme il le pensait. Bien sûr, c'est Sylvia Beach qui a édité Ulysse dans l'édition anglaise, mais après tout, c'était leur accueil commun qui a contribué à le fixer à Paris pour la deuxième partie de sa carrière littéraire, pendant 20 ans. C'est au moment où Joyce était contraint de quitter la France que l'on voit Adrienne Monnier publier une intervention qu'elle avait faite en 1931, une conférence qu'elle avait faite à la Maison des Amis des Livres, au moment où Joyce était en train, en fait, de, selon toute apparence, de lui être infidèle, elle a prononcé une très belle conférence et a tenu à la rééditer en ce moment-là. C'est tout à fait à son honneur. Enfin, c'est plus qu'à son honneur, c'est vraiment un des plus beaux témoignages que l'on peut donner de cette fidélité qui était à la fois à une personne, mais aussi avant tout à une œuvre.
La rencontre entre Joyce et Larbaud est une des grandes rencontres de l'histoire culturelle du XXe siècle. On pourrait presque dire, finalement, que Larbaud et Adrienne Monnier ont naturalisé Ulysse.
Il y avait, dans certains traits de Larbaud, en particulier dans les années 20, après la guerre de 1914, un certain nombre de traits qui étaient bien faits pour faire de cette rencontre avec Joyce quelque chose de fécond. Ce qui est frappant, c'est que l'indépendance de l'un comme l'autre, de Valérie Larbaud et de Joyce, était tout à fait sourcilleuse, et c'était peut-être d'ailleurs une des conditions de leur dialogue.
Et une des chances de Joyce d'avoir rencontré justement un auteur complètement autonome et qui ne soit pas finalement aliénable à son œuvre, à lui, Joyce.
C'est cela, et soumis de façon fondamentale aux exigences de sa propre écriture. Et c'est quelque chose qui s'est manifesté très tôt dans le refus de Valérie Larbaud de traduire Ulysse comme on le lui demandait. Il n'a pas accepté autre chose qu'un travail de révision, de reprise. Alors cette indépendance est tout à fait remarquable, et c'est cette distance qui a permis le dialogue, précisément.
La part de Larbaud a été naturellement très importante. Elle a surtout consisté à harmoniser le texte, à le polir. C'est naturel, un si parfait écrivain. Tantôt, il adoucissait ce qui était dur et forcé, tantôt, au contraire, il cherchait à renforcer certains effets poétiques. Comme exemple du premier cas, je citerai « un malheureux aliéné au lieu de un lamentable dingo ». Gronda-t-il au lieu de machena-t-il, une grande théière au lieu de une ample théière, le regard vacillant et surpris au lieu de les yeux clignotants et ébahis. Il avala avec un bruit de gargarisme au lieu de un bruit de cascade. Comme vous voyez, toujours dans Morel, c'est un peu forcé. Par ailleurs, Morel avait eu des réussites étonnantes, je n'ai pas besoin de le dire. Comme exemple de poli de forme, je citerai deux javelots de jour adoucis tombaient rayant le sol dallé, au lieu de deux flèches de jour tombaient moelleuses sur le sol dallé. Une lumière bienvenue et un air limpide entrèrent, au lieu de l'air et la lumière entrèrent salutaires. pour l'expression « disorderly houses » que Morel avait traduit par « quelles infâmes turnes », Larbeau proposait « maison de cohérence », ce qui était très amusant, un néologisme.
Oui.
Et puis alors, pour ceci, par exemple, « here, wet the deck and wipe it round », qu'on pourrait traduire littéralement, mais ça ne voudrait rien dire, par « ici, arroser le pont et essuyer-le à la ronde », Morel avait mis « à la régalade les mecs ». Alors, Larbeau avait demandé à Joyce « est-ce que c'est correct ?» Et Larbeau, Joyce plutôt, avait répondu « mais oui, c'est correct, plus ou moins, mais ne pourrait-on trouver quelque chose dans l'argot des marins ?» Et Larbeau a mis, ce qui a été la rédaction définitive, à la régalade et constreinte la dalle.
La complicité entre Joyce et Larbeau est aussi une complicité d'écrivain voyageur européen.
Joyce a été très tôt européen, il l'était de vocation, alors même qu'il était en Irlande, il ne cessait d'invoquer l'Europe comme son horizon culturel. C'était Ibsen, c'était Hauptmann, c'était les Italiens, le théâtre italien, c'était Maeterlinck, c'était l'Europe entière, l'Europe culturelle de son temps qui était son horizon. Et il a joint le geste à la parole. Et donc, dès 1904, il voyage, c'est Trieste, c'est Zurich. Paris était au départ une étape comme une autre. Il parlait italien chez lui, il parlait italien, il parlait français. Italien surtout avec son fils, français surtout avec sa fille. L'allemand était devenu une autre langue qu'il pouvait manier. Je ne parle pas du danois également, du grec auquel il s'est initié. Donc c'était l'Europe qui envahissait jusqu'à sa personne, jusqu'à sa vie personnelle, avant même de prendre place, de la façon qu'on sait, dans Finnegan's Wake. Et c'est cet homme-là que rencontre Larbeau après la guerre de 1914, un moment où Larbeau... comme donc Auguste Anglès le faisait apparaître, était hanté par l'idée européenne. Une idée européenne qui exigeait peut-être quelque courage pour être formulée, puisqu'on sortait quand même d'une guerre européenne qui avait accentué les différences, pour ne pas dire plus. Et c'était donc une idée définie en termes culturels, c'est-à-dire une Europe qui n'était pas une négation des cultures, mais une rencontre des cultures. Une Europe qui était également celle que Gide avait en tête.
Oui.
Ce n'était pas le cosmopolitisme un peu diffus, peu confus.
C'était
une rencontre d'identité nationale, d'identité culturelle.
Finalement, cette petite librairie de la rue de l'Odéon, cette maison des amis des livres, c'était pas un petit coin de Paris ni un petit coin de France, c'était un petit coin d'Europe.
Absolument, d'autant que Adrienne Monnier a toujours eu le plus grand souci de faire connaître les auteurs étrangers. Elle raconte d'ailleurs dans ses souvenirs à quel point elle avait été marquée par des collections, cette sorte de petite bibliothèque idéale, la Bibliothèque nationale, qui comportait un nombre non négligeable d'auteurs peu nationaux, enfin, d'auteurs étrangers. Donc il y avait là, effectivement, le jeu des diversités culturelles et de leur interaction.
Des villes et encore des villes. J'ai des souvenirs de villes comme on a des souvenirs d'amour. À quoi bon en parler? Il m'arrive parfois, la nuit, de rêver que je suis là ou bien là. Et au matin, je m'éveille avec un désir de voyage. Mon Dieu, faut-il mourir? Il faudra suivre à travers la maladie ou dans la mort ce corps que l'on n'avait connu que dans le péché et dans la joie. Aux vitrines des magasins, à des grandes voies des capitales. Un jour, vous ne reflèterez plus le visage de ce passant. Tant de courses dans les paquebots, dans les trains de luxe, aboutiront donc un jour au trou du tombeau. On mettra la bête vagabonde dans une boîte, on fermera le couvercle, et tout sera dit. Oh, qu'il me soit donné, encore une fois, de revoir quelques endroits aimés, comme la place du Pacifique à Séville, la Tiara fraîche et pleine de monde, dans le jardin botanique de Naples, la fougère arborescente, l'arbre jeune fille que j'aime tant, et encore l'ombre légère des poivriers de l'avenue de Kefisia, la place du vieux Faller, le port de Munichy, et encore les vignes de Lesbos et ces beaux oliviers où j'ai gravé mon nom de poète lyrique.
Je crois qu'il y avait entre Adrienne Monnier et Joyce une espèce de distance qui était peut-être la distance de la terrienne et de la ville. On sait que Joyce vivait...
C'est le citadin.
C'était le citadin, il n'est allé que de ville en ville. Son rapport aux paysans irlandais était terriblement antagoniste, enfin terriblement de rupture. C'est un homme de l'électricité, c'est un homme d'ailleurs qui a grandi au moment où l'électricité était en train de se répandre dans la ville et de faire les villes. Et il y a là quelque chose de l'impatience, de l'excès, de la rapidité, de la vitesse. Alors que chez Adrienne Monnier, ça me frappe dans son rapport à Apollinaire.
Ah oui, absolument, elle lui reproche d'être trop rapide.
Elle lui reproche d'être trop rapide, je ne sais pas si vous
oui, tout à fait, j'étais absolument scandalisée qu'elle reproche à Apollinaire sa rapidité.
Voilà, oui, vous vous souvenez du passage.
Oui.
Apollinaire, à mon sens, ne laissait pas le temps de souffler. Pourquoi dire « allons plus vite, nom de Dieu, toujours plus vite ». Pourquoi vouloir à tout prix de nouveaux sons et que tout ait un nom nouveau? Les choses ne sont nouvelles que tant qu'il y en a d'anciennes qui les suivent des yeux. Ce reproche qu'elle fait à Apollinaire, qui la sépare aussi de Breton, là, ce point-là, c'est quelque chose que d'une autre manière elle rencontrait chez Joyce et qu'elle acceptait chez Joyce.
Oui.
Parce que je crois que Joyce arrivait à mettre cela en œuvre en littérature, véritablement. Et alors, précisément, en ajoutant ce à quoi peut-être elle n'était pas aussi sensible, je n'en sais rien, je dis ça très vite, si vous voulez, et qui était de l'ordre de l'auditif, n'est-ce pas, qui comptait énormément pour Joyce,
oui.
Et qui lui permettait justement...
Côté opéra...
Le côté opéra, le côté langue, le côté différence des langues, le côté Babel des langues, n'est-ce pas? Et Babel disant quelque chose quand même. Babel faisant passer néanmoins quelque chose de l'existence humaine, n'est-ce pas?
Jacques Aubert, est-ce que le spécialiste de Joyce que vous êtes dirait quelque chose comme Adrienne Monnier a été une des chances de Joyce?
Très certainement, très très certainement, et une chance qui a été, je crois, appréciée de part et d'autre quand même, quel qu'ait pu être le ton que parfois a eu Joyce et qu'a eu aussi dans la correspondance Adrienne Monnier lorsqu'elle a tenu à faire le point. Il faut penser qu'Adrienne Monnier a fait ce qui, à l'époque, a été un lorsqu'on se remet dans la situation de l'époque. 1929, c'est quand même la crise qui a affecté aussi bien d'ailleurs Larbaud que les autres. Et aussi, du point de vue, cette fin des années 20, du point de vue littéraire et pour Joyce, c'est aussi une période cruciale. C'est-à-dire le moment où il est en train de lutter pour faire reconnaître contre tout le monde ce qu'il est en train d'écrire avec Finnegan's Wake. Et qui n'est soutenu absolument par personne. Ezra Pound même, qui au fond écrivait aussi des choses qui étaient radicalement nouvelles, le laissait tomber. Et c'est dans Le Navire d'Argent qu'a été publié les fragments de Finnegan's Wake, au moment où il ne manquait pas de bonnes âmes pour dire « ce pauvre Joyce est en train de devenir fou ».
Restons dans l'espace anglo-saxon. Adrienne Monnier a beaucoup écrit. Des mémoires, des articles, une correspondance, des portraits, des comptes rendus, des poèmes, mais aussi un livre de voyage. Souvenirs de Londres, Petite Suite anglaise, édité au Mercure de France. Gérard-Georges Lemaire, comment Adrienne Monnier a-t-elle visité Londres et qu'est-ce que ce livre nous apprend sur son rapport à l'Angleterre ?
C'est toujours amusant de voir comment ont été écrits les souvenirs londoniens. Il y avait une catégorie d'écrivains qui étaient anglophiles au début de ce siècle, et qui nous ont ramené un certain nombre d'éléments sur la vie en Grande-Bretagne. Et c'est très frappant, plus d'ailleurs par ce qui manque dans ces ouvrages que par ce qui est inscrit. En particulier lorsqu'on pense à ce que glane Adrienne Monnier dans ses souvenirs de Londres, on se rend compte qu'elle est très attentive à une certaine modernité, en particulier à Eliot, qu'elle consacre un très, très long passage, une conversation qui est assez amusante. Et par contre, elle fait l'impasse sur tout ce qui a pu être avant-garde dans ce pays. Et Dieu sait s'il s'est passé beaucoup de choses, surtout les années qui nous occupent. Par exemple, il n'est jamais fait état du futurisme en Angleterre, il n'est jamais fait état du vorticisme, il n'est pas question non plus du Bloomsbury. Et c'est donc tous ces manques qui moi, m'ont fasciné, parce qu'on s'aperçoit que les intellectuels français ont eu appliqué sur l'Angleterre une grille de lecture extrêmement forte. Adrienne Monnier parle des Préraphaélites, qui est un de mes sujets de prédilection.
Oui.
Et les Préraphaélites, qui, comme elle le dit elle-même, étaient déjà extrêmement décriés. Ça était vraiment passé de mode, hein, c'était le déclin. Et lorsqu'elle se rend à Londres pour la première fois, une des premières choses qu'elle va faire, c'est de se rendre à la Tate Gallery pour voir des tableaux de ces peintres. Et lorsqu'elle fait cette visite, elle nous en rapporte très peu de choses. Très peu de choses. Ce qui est assez amusant, puisqu'on a l'impression que cette grande volonté de découvrir ou de redécouvrir les Préraphaélites s'épuise dans la visite. Hein. Elle retire que quelques lignes, au fond, en ce qui concerne Rossetti et Burne-Jones, qui étaient ses peintres de prédilection. Par contre, il y a une chose amusante qui saute tout de suite dans le texte, c'est une rencontre fortuite dans un magasin d'une œuvre, d'une reproduction ou d'une gravure, d'une œuvre de Watts qui s'appelle L'Espérance. Et ça, elle y consacre un tout petit passage, mais qui montre que les Français qui allaient à Londres, au fond, avaient cette manière d'errer dans la ville qui n'exigeait pas, qui ne requirait pas une connaissance vraiment grave, vraiment aiguë de cette situation culturelle. Hein. Dans le livre d'Adrien Monnier, on se rend compte que les Français connaissent l'Angleterre, aiment l'Angleterre, mais ne cherchent pas à en savoir beaucoup plus.
Elle note aussi néanmoins des choses sur Londres qui sont assez bien vues, par exemple cette espèce d'insistance sur l'imprimé dans les rues de Londres.
Oui, alors il y a une foule d'annotations extrêmement précises et extrêmement pertinentes qui parcourent le texte. C'est l'attention générale qui est absolument impressionniste et floue, et surtout une absence de curiosité. Ce que les Français, comme elles, vont retrouver à l'époque en Angleterre, c'est un certain nombre de clichés. Ils vont à la rencontre de ces clichés. Voilà. Et qui, pour eux, font le charme presque indéfinissable, en tout cas irréfutable, de cette ville. En fait, ce livre comprend deux livres. L'un se rapporte aux années 1909-1910, donc l'avant la Première Guerre, et la seconde s'attache plus particulièrement à l'après-guerre, mais après la Seconde Guerre mondiale. Et on s'aperçoit que l'écart temporel qui est énorme ne s'accompagne pas d'un écart dans le regard porté. Et ça, c'est une chose assez intéressante et qui conforte ce que je tente de vous exprimer, c'est-à-dire cette manière de vivre une cité étrangère, et surtout Londres, comme un paradigme qui serait déjà maîtrisé avant le voyage. Hein. Il n'y a pas vraiment de découverte, il n'y a pas vraiment de nouveauté, il n'y a pas non plus un dépaysement. Et Dieu sait pourtant, moi j'ai vécu à Londres, si c'est une ville déconcertante et pleine de mystères, c'est une ville secrète, c'est pas, ce n'est pas une ville que l'on peut parcourir et vivre comme Paris, avec ses terrasses de café, avec ses restaurants, avec cette vie hein, qui se passe pas mal au fond à l'extérieur. Londres est faite d'une vie secrète, cachée de clubs, de soirées mondaines extrêmement réservées, et surtout à l'époque dont il est question ici. Mmh. Il y a donc une...
Pourtant, elle rencontre des gens qui vivent à Londres, Elliot, justement.
Oui, mais elle rencontre des célébrités. Elle rencontre des gloires, parce qu'elle parle d'Elliot quand même très tard. Elliot, alors, est extrêmement âgé, et c'est quelqu'un qui était alors reconnu sur le plan international. Alors qu'elle n'en parle pas, justement, lors de son premier voyage. Ça n'existe pas pour elle. Hein. C'est ça qui est amusant. C'est vrai qu'à l'époque, Elliot n'en pensait pas grand-chose, avait écrit que des œuvres de jeunesse ou quasiment rien.
Cité fantôme, sous le fauve brouillard d'une aurore hivernale. La foule s'écoulait sur le pont de Londres. Tant de gens. Qui eût dit que la mort eût défait tant de gens? Des soupirs s'exhalaient, espacés et rapides. Et chacun fixait son regard devant ses pas. S'écoulaient, dis-je, à contre-pente, et dévalaient King William Street, vers où Sainte-Mary Woolnot comptait les heures avec un son éteint, au coup final de 9. Là, j'aperçus quelqu'un, et le hélait. Stetson, toi qui fus avec moi dans la flotte à Millet, ce cadavre que tu plantas l'année dernière dans ton jardin, a-t-il levé? Va-t-il pas fleurir cette année? Ou si la gelée blanche a dérangé sa couche? Oh, keep the dog Farrance, that's friend to man, or with his nail he'll dig it up again. Hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère.
Reviling, be a welcome day, I'll be a welcome day. Alain Jaubert, voilà une photo où figure 2, 4, 6, 8, 9 personnes autour d'une table en pierre, assises sur des bancs ou debout dans un coin de près d'un arbre, on dirait un jardin, et au milieu, plutôt légèrement décalé sur la gauche, mais visiblement étant le centre de l'attention, enfin, Adrienne Monnier penchée sur un livre. C'est une très jolie photo. Les gens ont l'air à la fois sérieux et gais en même temps.
Ce jardin existe toujours. Par contre, les bâtiments qui sont autour n'existent plus. Ce jardin est aujourd'hui une résidence à Ville d'Avray. Et c'était à l'époque un très grand parc que les propriétaire du lieu, donc Henry et Barbara Church, qui étaient des Américains mécènes, qui avaient lancé une revue Mesure, occupaient, ça s'appelle je crois la résidence des cèdres, et les personnages ont presque tous disparu, à l'exception peut-être d'un seul, qui est le seul survivant de l'époque, qui est Michel Leiris. Il y a de gauche à droite Sylvia Beach, Barbara Church, Adrienne Monnier, Germaine Pollan qui est penchée sur le livre que lit Adrienne Monnier, qui est peut-être d'ailleurs un numéro de la revue Mesure, puisque tous ces personnages sont des membres du comité de rédaction de la revue Mesure. Henry Church, assis sur un banc à côté de Michel Leiris, assis d'une façon assez décontractée et cavalière sur le coin de la table, on voit Henri Michaud, et à l'arrière du banc, derrière Michel Leiris, on voit Jean Pollan. J'ai oublié un personnage qui est juste derrière Adrienne Monnier. Il s'agit de Vladimir Nabokov. Vladimir Nabokov fréquentait donc ce milieu parisien, enfin d'écrivains parisiens, et a donné d'ailleurs, je crois, une ou deux nouvelles à la revue Mesure à l'époque. Donc ouais. c'est une réunion du comité de rédaction dans le jardin, sans doute un jour de printemps 35, 36 ou 37, je ne saurais pas exactement dater la photo. Et donc, effectivement, au centre de la photographie, on voit Adrienne Monnier dans sa légendaire grande robe en train de feuilleter un livre qui est peut-être une revue, d'ailleurs.
Ce qui me frappe aussi quand on regarde cette photo, c'est cet air extraordinaire de gaieté.
Tous ces gens ne sont pas particulièrement jeunes, mais enfin, ils sont quand même entre 35 et 50 ans. Et à part peut-être les deux commanditaires de la revue, enfin les Church. Et puis c'est avant la guerre, c'est avant les honneurs, c'est avant les honneurs et les déshonneurs, si j'ose dire. C'est avant que la NRF soit devenue cette chose lourde et encombrante. Pollan est peut-être le seul qui a de lourdes responsabilités là-dedans. Michaud est un poète encore méconnu. Léry, c'est un jeune homme encore mais inconnu. Nabokov n'a pas encore entamé le grand cycle des romans qui l'ont rendu le plus célèbre. Enfin, il a déjà beaucoup écrit. Enfin, finalement, tous ces gens n'ont pas sur leurs épaules et puis Sylvia Beach et Adrienne Monnier ne sont pas du tout, enfin, ne sont connus que d'un petit cercle d'écrivains ou de lecteurs parisiens. Elles n'ont pas la légende encore qui naîtra après les années 45-50, surtout quand Hemingway et d'autres les rendront fameuse. Et bon, donc, effectivement, il y a une certaine légèreté, une certaine grâce dans cette photographie. Cette photo aussi a un petit cachet 18e siècle. On a l'impression d'un temps suspendu. Rappelle un peu ces scènes de Watteau ou de Fragonard. Et on est, en fait, sous une charmille, dans un coin de parc. Et quelques personnes cultivées discutent de littérature et discutent du contenu de la revue qu'ils viennent de produire.
C'est une des fiertés de la rue de l'Odéon que d'avoir aidé au groupement des amis de Fargue. Tous les lecteurs de Fargue deviennent ses amis, n'est-ce pas ? Notre modeste librairie fut, on le sait, le siège de l'ordre des Potassans, dont Fargue était le grand maître, et Raymonde Linossier, notre chère Raymonde, l'élément le plus jeune et le plus enthousiaste. Le mot Potasson avait été trouvé par Fargue. C'était le nom d'un chat qu'il avait eu, un bon gros chat. Je m'étais appliqué à en faire la définition que voici. Potasson, variété de l'espèce humaine se distinguant par la gentillesse et le sens de la vie. Les potassons ont de la bonhomie et du cran. Quand ils se réunissent, tout va bien, tout peut s'arranger. On s'amuse sans effort, le monde est clair, on le traverse de bout en bout. Depuis les grosses bêtes des origines, on les a vues, on y était. Jusqu'à la fin des fins où tout recommence, toujours avec bon appétit et bonne humeur.
Pierre Dumayet.
Pour l'instant, j'aspire à être un potasson.
T'aspires en potasson alors ?
J'aspire en potasson. Pour les potassons, le plaisir est un positif. Ils sont tout de suite à la page, ils ont de la bonhomie et du cran. C'est très curieux d'ailleurs, cette définition un peu... Ce moralisme qu'il y a là-dedans.
Oui, tout à fait.
La bonhomie et du cran. C'est bien d'être potasson. Hein.
Il y avait Valérie Larbaud, par exemple, Léon-Paul Fargue.
Il faisait partie des potassons impressionnants. Il était plus, je dirais même qu'il était peut-être plus impressionnant qu'un potasson normal, quand même.
Ma vie a été vécue de telle façon que je connais tous les cafés de Montmartre, tous les tabacs, toutes les brasseries. 40 ans de voyage à pied dans ce pays formé par les frontières du 18e et du 9e arrondissement m'ont familiarisé avec les établissements de cette sorte de festival permanent qu'est Montmartre. Depuis le caboulot sans chaise ou debout face à face avec le patron, l'on ne peut choisir qu'entre trois bouteilles. Jusqu'à la grande machine Modern Steel, avec interurbain, poisson rouge, sireur et fruits de la mer. Depuis le café-restaurant Denine, cher aux ministres radicaux et marseillais de Paris. Depuis les bars en couloir d'autobus de la rue de Douai jusqu'au tabac du boulevard de Clichy, dont la clientèle se renouvelle 10 à 100 fois par jour. Café crasseux, café pour hommes du milieu, café pour hommes sans sexe, pour dames seules, café de taulier, café décoré à la munichoise, esclave du cinéma armé, de l'agence Havas, tous ses noyaux, ses pierrots, ses cafés au nom anglais, ses bistrots de la rue Le Pic, ses halles de la place Clichy, donnent asile aux meilleurs clients du monde. Car le meilleur client de café du monde est encore le français qui va au café pour aller au café.
Il y a quelqu'un alors que je n'ai pas connu, dont elle parle dans ses souvenirs, c'est l'auteur de Bibi la Bibiste.
Ah oui, Raymond Dinossier.
Je regrette de ne pas l'avoir connu, parce que ça, c'était charmant. Je n'ai pas vu, mais ce que j'aime beaucoup, c'est la page, le premier chapitre, qui tient trois lignes d'ailleurs, et qu'Adrienne cite là. Le sous-titre est « Enfance » et « Sa naissance fut pareille à celle des autres enfants ». C'est pourquoi on la nomma Bibi la Bibiste. Entre parenthèses, ceci fut l'enfance de Bibi la Bibiste. Ça, elle adore ça. Mais elle dit des choses très justes, Adrienne, quand elle fait des portraits. Mais le portrait, je trouve le plus juste, celui de Francis Poulenc. Elle dit « Et montrer son meilleur air, enfant d'éléphant, à qui on n'a pas encore tiré le nez. » Ça, c'est tout à fait vrai, parce que ça, c'est très très joli ça. C'est joli parce que c'est exact. C'est vrai qu'il avait cette tête-là. Et puis elle dit aussi des choses à propos d'elle. Elle dit mon sourire me faisait sourire. Et ça c'est sûr.
Profil perdu, Adrienne Monnier. Une émission de Christine Goémé. Avec Pierre Dumayet, François Chapon, Jacques Aubert, Gérard-Georges Lemaire, Alain Jaubert et les voix de Sylvia Beach et Adrienne Monnier. Texte de Valérie Larbaud, T.S. Eliot, Léon-Paul Fargue, lu par Jean-Claude Durand. Mixage, Marc Duchesne. Réalisation, Daniel Fontanarosa. Archive, INA. Thank you.
Cette émission a été diffusée la première fois le 8 décembre 1988 sur France Culture. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France.